étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 14e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur isérois Xavier Massé dans le 5e roman La Route du Lac, est paru le 7 septembre 2023 aux éditions Tornada. Xavier, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Alors, tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente ?
Je vais dire auteur. Des auteurs, parce que romancier, écrivain, pour moi, ce sont des gens qui vivent de leur plume. Et personnellement, j'écris des histoires pour le plaisir et ça reste un loisir. Donc, je préfère le mot auteur.
Bien. Alors, généralement, les autrices et les auteurs ont été et sont des lectrices et des auteurs et des lecteurs assidus. Alors, ce n'est pas ton cas. La lecture ne faisait pas et ne fait toujours pas partie de tes priorités.
Non, toujours pas. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai eu énormément de difficultés en français dans la matière littéraire. J'étais matheux, sportif, et le français n'était pas fait pour moi, quoi. C'est venu beaucoup, l'écriture est venue beaucoup plus tard, et c'est vrai que c'est devenu maintenant une passion. Mais aujourd'hui encore, ça reste toujours l'écriture, et la lecture, je n'y arrive toujours pas, quoi. D'autant plus que j'ai toujours peur que si je lis des romans policiers, thrillers ou autres, j'ai toujours peur de m'en inspirer et qu'ensuite qu'on me dise que j'ai fait comme tel auteur ou tel auteur. Donc je préfère maintenant même ne rien lire pour avoir ma propre patte.
Bien. Alors, tes deux grandes passions, tu le disais, étaient le sport et le cinéma. Lesquelles t'attiraient plus particulièrement ? De quel genre de film étais-tu fan, par exemple ?
Alors, petit, c'est vrai que j'avais un grand frère de 7 ans plus que moi. À l'époque, c'était énormément le fantastique. On était dans la période de Retour à le futur, les Star Wars et autres. Et c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Et petit à petit, au fil de l'âge, j'ai commencé. Il y a eu l'arrivée à un moment. Il y a eu le polar et le thriller qui ont été en vogue quand Seven a débarqué, et puis quelques séries comme ça. Et j'ai tout de suite accroché, donc du fantastique à l'imaginaire. J'ai débordé sur le thriller et je suis resté bien dans ce domaine. C'est assez large, je ne me prive pas de regarder de tout. J'aime beaucoup le cinéma poignant, on va dire, où souvent on ressort avec des frappes un petit peu comme des claques au visage. Mais c'est vrai que je reste un peu dans cette catégorie.
Donc je parlais de ton autre grande passion, le sport. Donc si le cinéma est toujours une de tes passions, le sport l'est moins. Comment passe-t-on d'une activité physique à une activité cérébrale, l'écriture ?
On se fait mal. Déjà, je pense qu'il faut faire le deuil. Il faut faire un deuil du sport. Parce que c'est vrai que j'étais un gros sportif. Enfin, pas forcément un gros niveau. Mais avec beaucoup d'entraînement, il y avait de la compétition. Forcément, on est addict. Et on a une hygiène de vie et un rythme bien régulier. Et le jour où tout s'arrête, bah, forcément, c'est très compliqué. D'autant plus que j'ai subi une double opération du genou. Ça a duré 4 ans entre la chirurgie et la rééducation. Bon, et finalement, de par le fait, la douleur, comme on en a marre d'avoir mal, la douleur fait qu'on arrête et on fait le deuil. Et donc j'étais revenu un petit peu, quand je faisais moins de sport, j'étais revenu un petit peu dans le cinéma, donc je me suis replongé un petit peu à voir plus de films, j'avais plus de temps. Et à un moment, j'avais fait une surdose de films, j'en avais un petit peu marre et j'avais mes propres idées qui grainaient un petit peu dans la tête. Et je me suis dit, pourquoi tu n'écrirais pas, quoi. Et je suis parti bêtement, on va dire. J'étais dans le train, je prenais le train le matin pour aller travailler. Et j'avais une idée un petit peu saugrenue comme ça, très insolite d'ailleurs. Un braquage de banque, l'argent disparu et le braqueur est amnésique. Voilà, et c'était parti de ça. Et une page, deux pages, trois pages sans écrire une histoire. Hein. J'étais parti un peu dans un délire. Hein, et puis je suis arrivé à plus de 100 pages et avec une histoire qui tenait la route. qui était assez bien ficelé. Puis je l'ai fait lire et c'est parti de ça, en fait.
Tu faisais quoi comme sport ?
Oh là ! Alors, j'ai fait du ping-pong en national quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport de combat jusqu'à 18 ans. Je suis parti faire mon armée, je suis revenu. Donc, j'ai voulu faire un sport collectif. Et j'ai découvert des collègues qui faisaient du volley en régional et national. Et je me suis embarqué là-dedans assez tardivement dans du volley. À toucher un peu la pré-nationale et m'entraîner avec la nationale 3. Et bon, par contre, voilà, j'ai fait du volley très très tard, trop tard, et je pense que mon corps n'a pas supporté. Et je me suis fait plein, beaucoup, beaucoup de blessures et trop de blessures.
Alors, on arrive à compenser le sport par l'écriture. Et à quel point commun il y a entre les deux ?
Il faut être pugnace. Faut avoir la volonté d'arriver au bout. L'écriture est une dynamique, un peu comme un entraînement de sport. Un peu, je prends souvent l'exemple d'un boxeur où faut y être tous les jours, faut rien lâcher, faut s'acharner dessus. L'entraînement, c'est pareil. L'écriture, c'est pareil. Et j'ai envie de dire que même beaucoup plus, on retrouve la condition du sport beaucoup plus dans la deuxième partie d'écriture, c'est-à-dire dans la correction. C'est-à-dire que c'est très long, c'est très dur, c'est chiant. Tous les sportifs vous diront que les préparations physiques sont horribles. Mais on est obligé de passer par là. Et je pense qu'on se retrouve un petit peu dans l'écriture. C'est un peu une compétition. C'est-à-dire que la compétition, c'est d'arriver tout au bout de l'histoire. On a envie d'arriver au bout. On ne sait pas dans quoi on s'engage. Mais on sait qu'on doit y aller. Alors on y va.
Alors toi, tu es un grand fan de cinéma. Est-ce que c'est une évidence de retrouver les genres que tu aimes dans ton écriture, le polar, le thriller, voire le fantastique ? C'est une évidence ?
Pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est parce que je pense de toute façon, c'est comme les goûts et les couleurs. On aime le noir, on se retrouve avec du noir. On est toujours attiré par quelque chose. Et alors des fois, on se découvre totalement dans un autre univers. Mais la façon dont j'écris, je me rends compte que je ne pourrais pas écrire autre chose. On m'a posé déjà cette question de me lancer dans de la romance ou des choses comme ça. Je pense que les mots que tu utilises, les sentiments que tu as envie de faire passer, la façon dont tu amènes les mots font que tu t'orientes plus ou moins là-dessus. Et je me rends compte dans les dialogues, surtout dans les dialogues, il y a des punchlines, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des rebondissements. Je ne peux pas m'ennuyer quand j'écris un bouquin, je ne dois pas m'ennuyer quand j'écris un bouquin.
Alors, un roman, c'est comme un film. Il y a un scénario, des personnages, des décors, des musiques. Tu construis et écris tes histoires comme un scénariste ou comme un réalisateur, ou les deux ?
Plus comme un réalisateur. Alors je ne connais pas le boulot de scénariste, bien que tout le monde m'oriente à me dire d'écrire des scénarios, et je pense qu'il y a une grosse différence, mais je pense plus comme un réalisateur, car je visionne énormément mes scènes comme si c'était au cinéma, c'est-à-dire que sur des plans, sur des dialogues, sur des émotions, parfois je me mets même à imaginer mon personnage en train de vivre la scène, de respirer, de qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là. Donc vraiment comme un réalisateur avec sa caméra, et qu'est-ce qu'il aimerait voir à travers sa caméra, c'est ce que j'essaie de retranscrire à travers mes dialogues et mes pages d'écriture.
Alors toi, tu t'es lancé dans l'écriture il y a un peu plus de 10 ans. Ton premier roman, Répercussions, n'est sorti qu'en décembre 2016. Alors, c'était un test pour toi, pour voir où tu voulais aller avec l'écriture ?
Alors, c'était même plutôt pas un test, mais le fruit du hasard, hein, parce que j'étais pas parti pour écrire un livre. Je l'ai écrit, je l'ai fait lire à ma famille. Alors, pour ce coup, je me suis dit que c'était pas du tout objectif, mais ma sœur lisait énormément de polar. Et elle me disait, elle m'avait dit à cette époque-là, écoute, franchement, je pense que l'histoire tient vraiment la route. Et je me suis dit, écris des maisons d'édition. Et j'étais un néophyte complet, j'ai tapé maisons d'édition sur Internet. Alors je suis tombé sur les grosses maisons d'édition. En plus, sans réfléchir, je l'avais à moitié corrigé, je l'avais envoyé comme ça, à des maisons d'édition qui n'éditaient pas du tout du polar. Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc je pense pas que c'était un test, c'était plus, on s'est dit, pourquoi et pourquoi pas. Et après de multiples retours négatifs, j'ai quand même compris qu'il y avait différentes maisons d'édition en fonction du style et différents degrés de grandeur dans les maisons d'édition. Et j'ai tapé un peu plus bas et j'ai trouvé, à l'époque c'était IS Édition, qui avait adoré le scénar, mais qui m'avait dit qu'il ne pouvait pas le prendre comme ça, il fallait le corriger de nouveau. Et c'est là que j'ai appris qu'on ne pouvait pas se permettre de balancer un roman tel quel et que la correction prenait tout son sens.
À l'époque, tu voulais forcément écrire d'autres romans ?
Non. Non. C'est le fait d'avoir été édité qui m'a donné l'impulsion de me dire « Es-tu capable de continuer ? Es-tu capable d'en écrire un autre ?» Je m'étais dit à chaque roman, c'est ce que je me dis à chaque fois d'ailleurs quand j'y repense, je me dis bon, « Là, je vois pas quelle autre idée pourrait me venir. » Et finalement, les idées me viennent plus vite que prévu. Et d'un premier roman, bah, j'en ai écrit un deuxième. Et après, ce problème, c'est un peu une addiction parce qu'on se dit « Mais on n'a plus envie de s'arrêter. » quoi. On se dit « Mais pourquoi je m'arrêterai là ?» Et puis, ben voilà.
Et puis voilà. Alors, on te retrouve donc 3 ans plus tard, j'ai un autre éditeur, Tornada Édition. Alors, qui a rencontré l'autre ?
Alors, c'est pareil, c'est à force de rencontres. J'ai débarqué dans le milieu du livre. Une fois que mon livre était édité, je ne savais absolument pas quoi faire. C'était une petite maison d'édition et je ne savais même pas qu'il y avait des salons du polar, je ne savais pas du salon du livre, je ne savais même pas qu'il y avait des blogueurs sur Internet. Et il m'a fallu bien un an pour comprendre un peu le système et commencer un petit peu avec mon premier éditeur à démarcher des blogueurs et faire mes quelques premiers salons. Je crois que mon premier salon, je l'ai fait 9 mois après la sortie de mon premier livre. J'étais vraiment très très en retard là-dessus. Et quand j'ai fait mes quelques premiers salons, j'ai rencontré, à l'époque, il y avait des associations de personnes qui vibraient pour le polar, qui existent encore aujourd'hui, et qui m'avaient dit, il faut que tu évolues, parce que un bouquin, ben voilà, dans la chaîne du livre, il faut un diffuseur et un distributeur. Et le diffuseur, c'est l'intermédiaire qui permet d'être vu en librairie. Et c'est vrai que j'avais compris un peu à ce moment-là comment marchait le bouquin. Et on m'avait donné l'adresse de Tornada. Et Tornada, voilà, c'est une petite maison d'édition qui cherchait des jeunes auteurs et je m'étais permis de leur écrire. Et très rapidement, ils m'avaient répondu. Je crois qu'un mois après, ils m'avaient répondu après avoir lu le bouquin. Ils m'avaient dit, bah, écoutez, on adore, on vous prend. Et c'est parti comme ça, en fait.
Alors, Tornada Édition, c'est spécialisé dans le policier et le thriller. C'est important d'avoir un éditeur qui s'intéresse de très près à un genre que l'on écrit.
Je pense oui, parce que il faut qu'un éditeur soit investi. De toute façon, alors au-delà de la machine qui est une entreprise, forcément l'édition, on vend des livres, hein, c'est fait pour gagner de l'argent bien entendu, mais je pense que il y a une part de passion qui est obligatoire. Quoi. On enlève la passion du livre et la passion du thriller. C'est un éditeur, quand il vous lit, il doit, je pense qu'il doit vous comprendre. Il doit comprendre l'histoire, il doit comprendre ce que vous essayez de faire passer pour qu'il puisse être convaincu, être convaincant lui aussi. Et inversement, l'auteur doit être, pour être convaincu, il doit être convaincant en même temps. Je pense que c'est un échange, c'est obligatoire pour moi d'avoir les mêmes passions, d'avoir le même lien qui permet de construire correctement le roman. Parce que derrière ça, il y a la construction de la couverture. La couverture, si on n'est pas en phase, en adéquation avec l'histoire, c'est compliqué. Je pense, oui. Après, il y a des grandes maisons d'édition, peut-être qui ne marchent pas comme ça, mais pour ma part, c'est ce que je pense.
Alors, justement, quels sont tes rapports avec ton éditeur et puis avec Joël Maïssa, son fondateur ? Comment travaillez-vous ? Comment échangez-vous ?
Alors, principalement au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Alors,
ah oui ?
Des fois, pour des simples questions par mail, quand c'est tout bête. Mais voilà, quand il y a un sujet bien particulier, voilà, il demande s'il peut m'appeler ou inversement, quand on doit traverser des grosses phases de correction, quand on travaille sur la couve, etc. Voilà, on échange simplement. Voilà, hein, c'est quelqu'un de très, très sympathique, très ouvert. Enfin, voilà, il n'y a jamais de guillemets qui sont prises. Et puis en plus, me connaissant moi, enfin, je veux dire, j'ai toujours été simple et cash, on va dire. Voilà, sachant que c'est plus facile quand ça reste qu'un loisir que quand ça en devient un métier, qu'il y a des enjeux qui sont derrière. Quand il y a des enjeux, ça peut être beaucoup plus problématique. Quand il y en a moins, alors il y a toujours des enjeux pour l'éditeur, évidemment. Quand c'est un auteur, même si ça reste un loisir, alors ça reste un loisir, mais on a envie que tout soit travaillé, tout soit abouti, évidemment. Mais les relations sont beaucoup plus simples.
Alors, depuis le début, ton écriture est très cinématographique et les romans sont écrits, je trouve, comme des films. Il y a cette notion d'efficacité, de rapidité, de ne pas trop s'arrêter et toujours mettre en haleine la lectrice ou le lecteur. Tu ne veux pas qu'on s'ennuie lorsqu'on te lit ?
Exactement. Et je pense que si je tentais... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme quand on dit broder ou de mettre beaucoup plus de forme, beaucoup plus de description. Je ne suis pas sûr d'en être capable, déjà, Edin. Et je pense que si je le fais, ou si je le ferais, comme j'en suis pas capable, peut-être que les gens se feraient chier. Donc je me dis, voilà, dans un film, je fais toujours référence au film, c'est tambour battant. Il y a des scènes un petit peu de ralenti, il faut que par moment, il y a un peu, c'est comme une des notes de musique, quand on bat, il faut que ça redescende, il faut que ça remonte, il faut que ça redescende, il faut que ça remonte. Et je pense que dans un film, c'est souvent comme ça, mais ça va plein peu. Et moi, je pense que mon écriture va avec. Et je n'ai pas envie qu'on s'ennuie, non, c'est clair. Il y a des phases plus calmes qui sont nécessaires, notamment pour les émotions, les sentiments avec les personnages. Mais le reste, faut que ça bombarde.
Alors, le premier et le quatrième roman se passaient aux États-Unis, les trois autres en France. Si je ne me trompe pas, tu passes facilement d'un pays à l'autre ?
Oui. Le choix se fait plus par rapport au fond de l'histoire, tout bêtement, répercussions. Alors le premier roman, c'est sûr que c'était un braquage de banque, c'était voilà, c'était comme un délire un peu à l'américaine, c'est un braquage avec Kevin, Shirley, donc je me suis dit, bah voilà, et pour ça, on va partir aux États-Unis. Et 30 secondes parce que voilà, tout démarrait avec une histoire de choc dans une partie de football américain, donc forcément, football américain, c'était plus la même de parler aux États-Unis, quoi. Alors bien qu'il y a des clubs de football américains en France, mais c'était plus pratique là-bas. Après, parfois, en fonction de l'histoire et de l'enquête, quand je sens que les procédures vont m'emmerder, on va dire clairement, je sais que comme dans les films, on est beaucoup moins regardant quand ça se passe aux États-Unis. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que les procédures sont moins problématiques, peut-être qu'on peut se permettre certaines choses et survoler certaines choses. Donc parfois, je vais là-bas parce que c'est plus simple, parce que ça me botte, parce que les portes sont plus ouvertes.
Tu n'aurais pas envie de faire voyager tes personnages dans d'autres pays, d'autres continents ?
Si, mais ma crainte serait que il faudrait que je maîtrise un peu plus le pays. Alors non pas que je maîtrise les États-Unis, mais j'ai vu énormément de films se passer aux États-Unis, je me suis renseigné aux États-Unis sur pas mal de choses, c'est assez simple. Après, les pays ont souvent des géographies particulières, des religions particulières, des choses bien précises, et je pense qu'il faudrait que je me renseigne énormément. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me renseigner énormément, parce que j'ai envie, quand j'écris, j'ai envie que ça aille vite. Comme je vous dis, je suis vraiment dans le scénario, l'histoire, et je ne suis pas dans le deuxième et le troisième plan. Pour moi, le troisième plan, si on situe le pays, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Je suis vraiment pas dans le décor. Donc, pour moi, je me dis, la France, c'est bien. En plus, je peux avoir facilement des repères. Les États-Unis, parce que ça m'amuse, ça me facilite. Après, je ne ferme pas la porte, mais je suis pas certain. Sauf peut-être le jour où j'irai visiter quelques pays et qu'une fois avoir visité, là, peut-être que je reviendrai avec l'idée de me servir de ce décor parce que je l'ai vu, parce que je m'en suis imprégné. Je pense qu'il faut que je m'en imprègne pour pouvoir me faciliter l'écriture.
Bien. Ton dernier roman en date, donc La Route du Lac, hein, est paru le 7 septembre 2023 aux éditions Tornada. Peux-tu nous raconter l'histoire, sans trop en dire, bien évidemment, quelle est l'intrigue ?
Alors, La Route du Lac. J'ai inventé un village qui s'appelle Blache. Je l'ai positionné près de Lyon. Et Blache est un vieux village qui était nourri de l'agriculture de maïs. Et le temps faisant, l'agriculture en perdition, il restait plus que quelques agriculteurs pour survivre et non pas pour vivre. Et le maire avait une magnifique forêt qui entourait tout le village et il a voulu redorer le blason de son village. Il a eu l'autorisation de créer tout un lac artificiel au centre de cette forêt. Et petit à petit, de nouveaux habitants sont venus, il y a eu des nouvelles constructions, etc. Et le village est devenu quelque chose de très, très prisé. On fait du skysurf, enfin voilà, c'est devenu la belle banlieue à côté de Lyon. Et les enfants, pendant des années, donc ils ont tous grandi, les riches comme les pauvres, de différents milieux. Et la particularité de ce village, c'est que la forêt avec le lac sont éloignées du village et une seule route traverse la forêt pour rejoindre le lac. Et au lac, il y a un bar, la plage, il y a une même plage artificielle. Et tous les samedis soirs, les enfants font la fête là-bas. Donc les enfants, ils ont 18-19 ans, ils ont passé le bac, voilà, ils se suivent depuis leur enfance. Et un lendemain d'anniversaire, un samedi soir, à 1h du matin, fin du bal, tout le monde rentre, tout le monde passe par cette route. Et au lendemain matin, trois d'entre eux ont disparu. Donc il va y avoir une battue, ça va être la panique générale dans le village. Et 24 heures plus tard, on va retrouver une des adolescentes morte au bord de la cascade. Un autre qui sera retrouvé en pleine forêt amnésique, ne se souvenant de rien, et le troisième qui aura encore totalement lui disparu et recherché. Et la police va venir et va atterrir dans ce village pour essayer d'émêler le vrai du faux de ce qui s'est passé. Et je vous embarque dans une sorte d'enquête aux personnages où ce roman est énormément basé sur les personnages avec énormément de flashbacks. Chaque chapitre c'est un personnage, chaque chapitre vous découvrez un personnage, son passif, son histoire, son présent, et va apporter son petit secret supplémentaire sur ce qui s'est passé. Et voilà, je vous en dis pas plus. Blash, c'est un roman de personnages avec une intrigue complètement folle, on va dire.
Alors, ton troisième roman, Némésis, se passait à Assieux, un village de l'Isère qui existe réellement. Pourquoi dans La Route du Lac, tu as choisi Blash, un nom de village qui n'existe pas? Tu avais froissé certaines susceptibilités à Assieux?
Alors j'ai touché, je pense, que des habitants à Assieux. Le maire, je ne sais pas s'il a tant apprécié, je pense qu'il a eu peur plus qu'autre chose. Alors c'est vrai que Némésis était extrêmement violent, bon ensuite c'était passé. Et Blash, parce que tout simplement, en fait, non, c'est ce qui m'a inspiré. À Saint-Maurice-l'Exil, il y a un petit lac qui s'appelle l'étang de Blash. Et je me baladais souvent quand j'étais avec mon fils, on faisait le tour, et il y avait, mais alors, quand j'ai une cascade, non, un ruisseau qui tombait à peine, et un jour, j'imaginais un cadavre retrouvé en bas de ce ruisseau, et je pense que c'est parti de là, je me suis dit, on va appeler le village Blash, avec son étang, l'étang qui est devenu un lac, et puis une magnifique forêt, et des étendues vertes, et c'est parti de là, tout simplement, de mon imagination.
Alors, tu as choisi comme décor un village. Tu es plus à l'aise pour raconter des histoires qui se passent à la campagne. Il y a un climat particulier qui te convient plus, et c'est en rapport avec tes goûts cinématographiques.
C'est vrai que le village a un côté un peu mystique. Quand on noircit le tableau, quand on le rend un peu glauque, le village, je me souviens de certains films où on était... il y avait des mythes, des légendes, ça faisait peur. C'est vrai que le village, le vieux village, un peu tout pourri, paumé dans sa campagne, enfin moi ça m'a toujours fait flipper. Et c'est vrai que le décor, là pour le coup, permet de le faire. Après, tout dépend de l'histoire. Il y a des fois où on peut traverser, tout dépend de l'histoire. C'est vrai que le côté meurtre, le côté caché un petit peu, mensonge, secret, ça prête très très bien... au village.
Alors, tes scénarios, toi, sont assez complexes. T'as parfois peur qu'ils le soient trop et que cela ne profite pas au roman et que tu perdes un peu tes lectrices et tes lecteurs.
Alors oui, je sais que j'aime bien en faire beaucoup, des fois trop, parce que je me dis qu'on a tellement vu des scénarios, dans tout genre, je dis parle des scénarios en tant qu'histoire, que je me dis qu'il faut toujours arriver, sortir plus. Alors je suis toujours prudent à me dire attention au plus et au trop. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup à l'avenir, à essayer de redescendre un petit peu, à faire peut-être un peu du moins complexe, mais je ne me vois pas écrire autre chose que du scénario bien embarqué. Le but, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la solution avant que je la donne. Alors c'est toujours facile à dire ou difficile à faire en même temps, mais je reste un peu dans ces cams-là. Après, je pense qu'il faut peut-être un peu plus lisser les choses, travailler sur d'autres choses pour faire quelque chose de différent, parce que après, on peut peut-être se dire que Xavier Massé fait toujours la même chose. Donc c'est pour ça que je pense et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment.
Alors justement, Ophélie Cohen s'est aventurée dans le jeu de la correction et de la relecture de La Route du Lac, car tu dis qu'elle t'a appris que pour faire un bon roman, un scénario ne suffit pas. Alors tu n'en étais pas persuadé. Alors sur quoi elle t'a fait travailler ?
Les personnages, alors d'autant plus avec La Route du Lac où il y a beaucoup de personnages, ces personnages, les émotions, peut-être d'être un peu moins court dans mes écrits, justement, je pense qu'on peut quand même en rajouter un petit peu sans en rajouter trop, mais d'arriver à imprégner le lecteur justement de toutes ses émotions. Je pense que le meilleur combo, c'est ce qu'on avait dit, t'as le scénario, t'as les personnages, t'as les émotions, t'as le meilleur combo du monde, quoi. Et comme on a dit, t'as beau avoir le meilleur scénario du monde, ça suffit pas.
Alors dans ce roman, tu le dis à la fin du livre, tu as tenté de te renouveler, de faire quelque chose de différent. Alors en quoi La Route du Lac est différent des autres?
Je pense parce que y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages, déjà, et l'intrigue, Alors, je ne sais pas si c'est une référence de faire une intrigue un peu comme à l'anglaise, mais souvent j'avais vu parfois des téléfilms anglais où les rebondissements sont beaucoup plus lents. C'est-à-dire qu'ils arrivent un petit peu comme s'ils étaient déposés sur la table. Je me souviens, mais autrement, c'était un peu à chaque chapitre, un peu comme des grosses gifles qui apparaissaient et on repartait sur quelque chose, un peu tambour battant, ça allait très très vite. Et là, chaque personnage apporte une petite goutte de plus dans le vase, et le vase se construit petit à petit, et les révélations se font beaucoup plus lentement, et elles sont amenées d'un point de vue différent, finalement. Je pense que c'est là-dessus que La Route du Lac, d'habitude j'arrivais avec le scénario, et le scénario amenait les personnages, alors que là j'ai construit mes personnages, et ce sont mes personnages qui ont amené le scénario, je pense, dans ce livre-là.
Alors, il y a un sujet, en tout cas, que tu traites à travers La Route du Lac. Bah, c'est la différence, et celle des enfants que l'on dit différents, et qui sont aussi capables d'être des personnages de roman. Tu as senti que tu prenais un risque avec la présence de Rémi dans ton roman ?
Oui, j'avais peur. J'avais peur parce que on s'aventure dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Vous pouvez froisser des gens, voilà, parce que Rémi, on peut en parler, hein, dès le départ, Rémi est un enfant qui a un handicap et des difficultés, mais j'ai toujours été touché par ces gens et ces enfants, alors beaucoup plus avec les enfants parce qu'on est attendri par les enfants, forcément. Voilà, mon frère est moniteur de sport à l'IME de Saint-Maurice-l'Exil, et voilà, notamment sur un plan sportif, il organisait des compétitions de sport, et j'ai toujours vu ses enfants se défoncer à 200% pour arriver à un résultat même en dessous d'un enfant normal qui se serait battu à 70%, mais eux se seraient donnés à 200%. Et j'ai toujours trouvé de la magie dans leurs yeux, toujours trouvé ces gens fantastiques, et ils ont toujours eu une vision peut-être différente. Et en même temps, alors, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, c'est que finalement, dans leur malheur, de ne pas pouvoir vivre certaines choses, mais ils ont peut-être la chance de ne pas voir les choses comme nous on les voit, et de ne peut-être pas voir le malheur que nous on voit, ils le voient peut-être d'une façon différente. Et voilà, alors c'est pour ça que ce mot-là, de dire qu'on a de la chance, c'est là que j'avais peur de heurter des gens, parce que des gens qui me diront que quand on a un enfant handicapé, ce n'est pas avoir de la chance, et je le comprends bien, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, que ça soit l'enfant, que ça soit les parents ou leur entourage, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de boulot, c'est des énergies, je pense que c'est très compliqué. Voilà, on voit les choses de manière différente, on les vit de façon différente, mais je voulais les mettre en avant comme quoi ces personnes-là peuvent vivre avec les autres, comme les autres, mais de façon différente, mais tout en apportant la positivité, et que voilà, la différence fait que le monde est fait de différence, et heureusement qu'on est différent pour le monde. Donc j'ai voulu parler de ça, mais de façon légère. Voilà, légère, sans rentrer dans le détail, sans prendre un cliché particulier, sans mettre le doigt sur un type de handicap particulier non plus. Voilà.
Alors, écrire, c'est partager. Tu sembles plutôt à l'aise lors des séances de dédicaces et des salons auxquels tu participes. Toi, tu aimes rencontrer ton public ?
Oui. À l'aise, c'était pas au début. Quand on fait sa première année, ses premières dédicaces, on ne sait pas du tout comment se comporter. Oui, parce que je suis toujours curieux de savoir quel est le ressenti du lecteur et de vive voix, parce que le lecteur, on a des retours qu'ils mettent par écrit, et les écrits, moi, pour moi, c'est très bien, mais ça peut être interprété de différentes façons. Comme quand on envoie un SMS, on lit, il peut être passif, agressif, joyeux, tout dépend. Et j'aime avoir vraiment des fois même des détails. Des fois, je suis là à chercher qu'est-ce qui t'a plu dans le bouquin, et est-ce que cette scène-là, elle t'a fait vibrer, est-ce comment t'as ressenti. Et c'est là qu'on se rend compte que parfois, nous, auteurs, on a mis de l'énergie dans une scène particulière en disant là, ça va frapper, là, ça va être bon. Et finalement, parfois, cette scène-là glisse sur le lecteur alors qu'il en était accroché par une autre auquel on ne s'attendait pas du tout. Et c'est pour ça que je suis vraiment preneur des critiques. positif ou négatif, mais dans le détail, quoi. Vraiment, je veux savoir ces fois où j'aurais pu me planter. Et c'est pour ça qu'après, les avis divergent. Hein. Il y en a qui vont avoir doré un point A, un point B, etc. Mais je suis vraiment très, très preneur, quoi. Ouais.
Alors, sur ton stand, tu attires tes futures lectrices et lecteurs, j'en suis témoin, avec ta fameuse boîte de bonbons Haribo.
Non, c'est pas vrai.
et ça marche. Hein.
ouais.
Et ça marche.
Les bonbons, oui.
Alors, quelle idée de la part d'un ancien sportif comme toi de proposer une telle nourriture?
Ah, mais quelle anecdote. En fait, c'était lors de ma première dédicace, au bout de 8 mois d'avoir sorti mon bouquin, je me suis dit, mais en fait, soit t'as écrit un bouquin pour le laisser dans ta bibliothèque, soit t'as écrit un bouquin pour essayer de le partager. Et donc je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille faire des dédicaces. Donc ma première dédicace était dans un Cultura à Valence, je me souviens très bien. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Et j'avais ouvert Internet et je me dis, dédicace, que faire lors d'une dédicace? Alors c'était être debout, avoir le sourire, avoir un stylo, bien évidemment. Et il y avait l'anecdote d'avoir une petite boîte de bonbons pour que les lecteurs puissent venir partager un moment de lecture et un moment sucré. Et je dis, bah tiens, bah allez, on va aller chercher acheter une boîte de bonbons. Je savais pas trop quoi prendre, j'ai vu la boîte de Haribo, je me suis dit, bah tiens, ça se passe partout. Et j'ai pris la boîte de Haribo. Et je me suis dit, et j'ai attiré plus de gamins qu'autre chose qui n'ont jamais acheté de bouquins, mais ça m'a fait marrer. Et sur le coup, comme c'était ma première dédicace, j'avais mangé quelques bonbons, quelques amis étaient venus, et bah finalement, on tapait dedans, on discutait. Et ma deuxième dédicace, que j'en ai acheté une autre, et puis pour mon premier salon, bah voilà, j'ai amené une boîte d'Haribo, et les lecteurs et les auteurs m'ont dit, putain, mais t'aurais jamais dû amener ça, et tout le monde a tapé dedans, les auteurs ont tapé dedans plus que les lecteurs, et j'ai trouvé ça rigolo. Alors ça me coûte cher à chaque fois quand même d'amener des bonbons. Alors c'est vrai que ça fait un an ou deux, j'en amène beaucoup moins, j'oublie, j'y pense plus vraiment, ça s'essouffle un petit peu quand même. Mais voilà quoi, parce que je pense que maintenant j'arrive à chaque fois, il y a déjà à manger et à boire dans les salons, et je pense que c'est beaucoup trop d'amener une boîte de bonbons.
Alors avec tes bonbons Haribo, le grand enfant que tu es resté ressort forcément. Faire des salons, des séances de dédicaces, c'est avant tout un jeu comme celui d'écrire ou faire du sport?
Oui, je pense que je me retrouve un petit peu. Je me rappelle quand on était en compétition sportive, on partait les week-ends avec des déplacements complets d'une journée, voire deux, hein, quand c'était assez loin. Et on était une bande de copains, et je me rappellerai toujours des rigolades dans le bus. Enfin voilà, c'est, on n'arrêtait pas. Et je pense que dans le salon, c'est un peu la même chose. Je me retrouve dans une famille de polardeux, comme on dit. Et voilà, on est vraiment, ça se prend vraiment pas la tête, on est là vraiment pour se détendre et rigoler, tant dans les organisateurs, les auteurs, les lecteurs, et c'est vraiment un bon moment, quoi. C'est vraiment des week-ends détente, voire même des week-ends vacances, parce qu'on est amené des fois, parfois, à se déplacer assez loin. Je me souviens me retrouver quelquefois au bord de la mer, et c'est vraiment mais hyper agréable, qu'on est chouchouté, c'est vraiment comme si on partait en week-end, c'est extraordinaire, quoi.
Alors, toi, tu te définis, tu l'as dit, avant tout comme un écrivain de loisirs. Tu envies celles et ceux qui en vivent, même si la plupart en vivent moyennement?
Alors, je pense que j'aurais peur. J'aurais peur d'en vivre, parce qu'on en vit en plus moyennement, parce que pour en vivre, je pense qu'il n'y en a qu'une poignée, hein, après le reste on vit, mais c'est très compliqué, parce qu'il faut vendre un volume de livres qui est de l'ordre de 50 à 60 000 bouquins, donc je vous laisse imaginer ce que ça représente. J'aurais peur, parce que forcément il faut répéter le même nombre de ventes à chaque fois. Par contre, j'en vis, oui, peut-être plus pour la reconnaissance, la notoriété, qu'être reconnu comme un grand écrivain, et que moi, je pense qu'on a envie que de faire adorer mes histoires. J'aimerais que un maximum de personnes, plus de personnes aiment mes histoires, et forcément plus on aime vos histoires, plus on a envie d'en écrire, et à chaque fois de continuer de travailler là-dessus, quoi. Et je pense que c'est un cercle. Alors, vertueux et vicieux en même temps, c'est que c'est comme tout, hein, comme le sucre, hein, plus on en mange, plus on aime, plus on a envie d'en manger, ben c'est un peu pareil, quoi. Je pense que c'est pas pour en vivre que j'aimerais être connu, mais plus pour la reconnaissance de mes histoires. C'est vrai que j'aimerais être invité dans des plus grands salons, avoir une plus grande maison d'édition pour être hyper connu, traverser des pays, être adapté au cinéma, oui, rien que pour ça. Forcément, on va dire, il y a l'argent derrière. Oui, mais bien sûr que c'est un fait. Tu prends un chèque de 100 000 euros, mais bien sûr que tu es content. Mais j'aurais trop peur que ça s'arrête, donc je n'arrêterai jamais de bosser pour ça, quoi. Mais ouais, je pense pour en vendre plus, être plus connu, être reconnu et être adapté au cinéma. Je pense qu'adapté au cinéma, c'est rien que pour ça. Rien que pour ça, oui.
Alors, tu fréquentes, toi, des autrices et des auteurs qui travaillent aussi pour le cinéma. Je pense à Nicolas Lebel et à Alexis Leipziger, par exemple. C'est forcément un objectif pour toi? Vous en parlez entre vous?
Alors, on n'en parle pas forcément, je pense que c'est le rêve de tout auteur. On est admiratif. Moi, je vois l'exemple d'Alexis Leipziger qui a écrit 4-5 bouquins. Voilà, il est dans une grosse maison, donc forcément, c'est avantageux. Il y a une grosse machine derrière, bien évidemment. La grosse machine fait qu'on ouvre des portes, et tant mieux pour eux, tant mieux pour lui. Bien sûr que je suis admiratif. J'ai hâte d'aller voir son film au cinéma. En plus, ça m'intrigue vraiment. Je pense que c'est un style d'écriture que j'aime beaucoup. On doit se ressembler dans les histoires. Mais on en parle un petit peu. Oui, je pose beaucoup de questions. Derrière, voilà, je sais que j'ai quelques contacts avec une agence, notamment une agence de cinéma qui parle avec moi, qui discute avec moi, justement, qui a repris pour tous mes romans pour essayer de me vendre pour le cinéma. Donc petit à petit, les choses avancent grâce à ces rencontres de différents auteurs. Voilà, je ne vais pas citer le nom de la personne qui m'a dit le numéro de l'agence, mais voilà, c'est une autrice avec qui je m'entends très très bien depuis longtemps, qui m'a dit, mais tiens, écris-leur, et j'aurais écrit. Ils m'ont rappelé 3 semaines après, quoi, pour me dire, on adore, pour travailler, mais voilà, oui, bien sûr que c'est un objectif, je sais pas, c'est plus un rêve. C'est pas un objectif, parce que l'objectif de la vie, c'est d'être en bonne santé, tout se passe bien, de subvenir aux besoins de la maison, de voir mon fils grandir, ça, c'est l'objectif de ma vie. C'est plus un rêve. Et voilà, alors, je pense.
Alors, jusqu'à présent, dans tes romans, il n'y a pas de personnage récurrent. C'est quelque chose que tu envisages?
Non. Non, parce que le cinéma m'a déjà démontré plus d'une fois que les suites sont toujours des catastrophes. Alors, il y a des suites qui marchent très bien, mais au scénario, ça s'essouffle. Et étant donné que je fais des scénarios quand même assez bien ficelés, avec un début et une fin, c'est-à-dire que je ne laisse jamais le lecteur sur sa fin, comme on dit. Si je faisais une suite, ça serait qu'une simple aventure. Ou alors, il faudrait que je trouve un autre scénario encore bien chiadé, avec les mêmes personnages. Ça voudrait dire que, dis donc, ton personnage, il en arrive quand même de sacré bonne. Hein. Non. Le comme par hasard, à lui, ça lui arrive encore une fois. Non, je pense pas. Non. Et puis en même temps, j'aime trop l'imagination. J'adore repartir à zéro avec des nouveaux personnages, des nouveaux caractères, des trucs différents. Je ne peux pas faire autrement que repartir à zéro, et j'aurais peur de me planter. En plus, parce que comme je me dis, ça, ils connaissent, donc je peux me permettre de ne pas en parler. Et puis je pense que j'irai trop vite sur certaines choses, déjà que je suis quelqu'un qui va vite. Je pense que je me planterai, à mon avis, non, que des one-shot. Je dis jamais non, faut peut-être déjà dire jamais non. Peut-être qu'un jour je ferai une suite pour X raisons, mais je ne pense pas.
Tu es actuellement à l'écriture d'un nouveau roman, j'imagine?
Alors, c'était compliqué. J'ai écrit un roman que j'ai proposé à Tornada, mais qui n'a pas été pris. Donc ça a été 1 an et demi de boulot. En plus, je me suis lancé dans un truc. Mais comme quoi, je fais ce que je veux. J'écris ce que je veux, et on risque de me planter. Alors, limite, je suis content de m'être planté, parce que je pense que j'étais un peu trop facile. Alors, je suis rentré dans une histoire... Elle est très masculine et qui n'est pas qui était peut-être plus fait pour le cinéma que pour l'écriture. Mais sur le coup, mais ce problème, c'est qu'on a passé énormément de boulot avec Ophélie et la correction, parce que c'était vraiment un milieu très particulier. Et j'ai pas été prêt. Alors j'étais déçu au départ. Et puis en fait, avec le recul, ça m'a montré que finalement, j'étais peut-être un peu trop facile dans l'écriture. Et je me suis dit, pop, je vais écrire ça, ça va passer crème. Et finalement, ça m'a remis sur le droit chemin en disant, mais Xav, t'écris des bouquins, si t'écris un truc bien. Enfin, t'écris un truc bien. Planche-toi dans autre chose, quoi. Donc, je l'ai mis de côté. Peut-être qu'il ressortira un jour, peut-être autrement. On m'a demandé si je voulais le retravailler. Ce problème, c'est que c'est compliqué de retravailler. Malgré tout, l'agence de cinéma l'a pris. L'a pris pour le travailler, peut-être le vendre au niveau du cinéma. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas peine perdue. On verra bien plus tard. Donc je me suis remis dans l'écriture. En plus, j'ai 2 histoires qui me trottent dans la tête. Donc je vais encore me lancer dans 2 romans à écrire. Enfin, mais pour l'instant, non, il risque d'y avoir un petit creux. Ah. Un petit creux pour la première où j'étais quelqu'un de très régulier. Bah voilà, faut le savoir. Je risque de, en 2025, je risque de ne pas y avoir de sortie.
24
On est en 2024, oui, alors, oui. 2024, mais voire même 2025, parce que le temps d'écrire est corrigé. 2024, on y est en 2024. 2024, voire 2025, il reste peut-être d'avoir un creux, mais j'aspire que ce sera pour un plus gros rebond et encore plus fort, quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit en ce moment, après la fin de ce roman un peu foiré, hein, on va dire, hein, quand on va voir un roman foire, hein. Je pense que ça m'a servi de son, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Alors, vu que j'adore travailler le mal et le bien dans mes romans, je pense que ça ira très très bien.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le cœur, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Xavier, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
C'est bien, moi qui ne le dis pas. Hein, voilà. Non, mais je veux dire, le coup de cœur, c'est le... Alors, on va me dire, ouais, mais c'est parce que c'est ta compagne, mais je veux dire que c'est le roman d'Ophélie Cohen... C'est son dernier roman parce que j'ai trouvé que voilà, elle tape toujours dans des sujets très particuliers et sociétals qui, où l'humain est au centre de ses romans, l'humain et le roman noir. Et voilà, j'ai été énormément touché par son histoire et ce couple et cet enfant au milieu qui se déchire. Voilà, donc je veux dire que c'est Suspicion de Ophélie Cohen.
Voilà. Alors, côté sortie, notons le livre de Richard Volange, Espion, 44 ans, la DGSE, paru chez Talent Édition. Le livre d'Alexandre Moiti, Technocratisme et les grands corps à la dérive, aux éditions Amsterdam. Le nouveau roman d'Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, aux éditions Gallimard. Le dernier thriller de Karine Gebel, Blast, le premier volume d'Et à chaque fois mourir un peu, aux éditions Récamier, qui est formidable. Et le nouveau thriller de Barbara Abel, Comme si de rien n'était, toujours aux éditions Récamier. Pour terminer l'émission, les dates de séances dédicaces, il y en aura très peu, vu qu'on est le 9 mai, hein, Xavier ?
Oui.
Et non pas le 25 avril, et non pas le 26 avril. Donc il y a à la ferme de Pérouges, c'est dans l'Ain, les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12 mai, c'est la suite et la fin du Salon du Livre. Il y aura entre autres Luc Jarin, Victoria Vermel, Bernard Courtebras, Didier Jacquin, Iris Thomas, Véronique Monloup, Jean Fred, Patrick Lucizine et Thierry de Ray, de 10h à 18h. Et le mardi 21 mai, à la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse, Charlie Gilmour, oui, de 18h à 20h. Xavier, des séances de dédicace après le 9 mai ?
Après 9 mai, hein. Oui, je serai au salon à Bormi-Mimosa 83, dans le 83, le 24 et 25 mai. Je serai à Terme Noire les 6 et 7 juin, il me semble. Et ensuite, je serai au salon de Riez, la Ruche des Mots, voilà, la Ruche des Mots, le 4 et 5 août. Et après, on verra. Un an se sera passé et c'est là que je pense que je prendrai cette petite pause d'une année pour... reconstruire tout ça.
Bien. Bye bye. Roman de gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Xavier Massé, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de gare.
Merci à toi, Michel. Merci pour cette émission. Merci de me lire. Merci de me soutenir depuis mes débuts, en tout cas.
Ouais. Rappelons que ton cinquième roman, La Route du Lac, est paru le 7 septembre 2023 aux éditions Tornada. On peut se le procurer où, sans oublier les quatre précédents romans?
Dans toutes les librairies et ainsi que sur tous les sites internet, c'est diffusé, distribué de partout.
Ouais. Et on peut suivre ton actualité sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, même si je n'ai pas grand chose, oui. Mais on peut me suivre.
C'est pas grave. Le prochain invité de Roman de gare, le jeudi 23 mai 2024 à 18h30, donc sera le romancier en barrois Jean-François Dupont. Il présentera son nouveau roman, L'Échappée, paru le 1er mars 2024 aux éditions Asphalt. Eh bien, Xavier, bonne chance pour la suite de tes aventures d'auteur.
Merci beaucoup. Romancier.
Merci, Michel. Bon salon et bien à bientôt sur Radio B.
Merci, à bientôt Michel, merci à toi.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose, quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec avec moi dans la chambre close.